La société Lefroy a annoncé ce matin qu'elle allait reconstruire une usine de production. Cette nouvelle usine sera installée à Païta, ouverture prévue à l'horizon 2030. Une affaire de sang jugée depuis ce matin par la cour d'assises. Un homme comparé pour avoir assassiné son oncle à Pointe-Boute en avril 2022. Une nouvelle base nautique à Bouloupari, elle a été inaugurée ce matin à Bouraqué. Objectif, dynamiser le littoral de la commune. Reportage dans ce journal. La mobilisation de plusieurs collectifs indépendantistes ce matin dans les rues de Nouméa. 200 personnes ont marché entre le Moika et le palais de justice. Une délégation a été reçue par le procureur de la République. Et puis le sport et le futsal. La SPTT dispute dans un quart d'heure maintenant son troisième match de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Océanie. À l'entame de cette rencontre, l'équipe calédonienne est invaincue. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. La société Lefroy veut donc renaître de ses cendres. Elle a présenté ce matin son projet de reconstruction industrielle. La société lancée en 1943 a perdu son outil de production le 14 mai 2024 lors des émeutes insurrectionnelles. 80% des emplois ont été détruits et la société a enregistré une perte comptable de 2,3 milliards en 2024. Ce nouveau site industriel à Païta devrait voir le jour en 2030 pour relancer la production locale. Jean-François Bodin.
Après la perte de son outil de production, Lefroy a décidé d'importer notamment du Coca-Cola et de produire dans des usines de la région certaines autres boissons comme la bière. Une solution de transition pour continuer à exister sur le marché calédonien. Aujourd'hui, la société Lefroy veut retrouver son statut d'industriel local et pour ça, l'entreprise peut compter sur le soutien du géant américain Coca-Cola, comme a expliqué Nicolas Troboas, le directeur général de la société Lefroy.
Ça a été une expérience humble pour nous d'aller démarcher et d'aller mettre le caillou sur la carte du monde pour Coca-Cola. Un petit détail qui a joué en notre faveur, c'est l'historique de la Nouvelle-Calédonie. Les Américains n'ont pas oublié le rôle de la Calédonie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils considèrent que nous faisons un travail d'ambassadeur qu'eux ne pourraient pas faire depuis qu'ils sont partis. Il y a un soutien total, mais non seulement soutien, il y a également une non remise en cause du bien fondé de la franchise ici, qui nous permet d'envisager des décennies à venir avec une production locale. La stratégie de Coca-Cola n'est pas d'exporter, mais de construire des usines de production aussi proches possible de son consommateur, afin de garantir la meilleure fraîcheur du produit. Et nous faisons tout pour mettre en place ce projet de reconstruction avec les autorisations, bien sûr, qui en dépendent.
Dès le mois de juillet 2024, avec le soutien du gouvernement, la société Lefroy a donc pu importer du Coca-Cola de la région et a également pu envoyer des brasseurs pour fabriquer des produits de ces différentes marques. Cela s'appelle du contract manufacturing qui n'est ni de la production locale ni de l'importation pure, ce qui a justifié la modification de la réglementation en matière de droits de douane afin de ne pas faire grimper le prix des boissons. Christophe Bada est le président de la société Lefroy.
C'est un schéma de transition qu'on est très heureux d'avoir trouvé. C'est les équipes de la société qui ont réussi à faire ça. Je ne sais pas si ce modèle existe déjà par ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il est assez unique. Il est pratique pour être capable de rebondir très vite, mais il n'est absolument pas pérenne. Ces usines, ce n'est pas chez nous. Rentrer dans des usines qui ne vous appartiennent pas, c'est extrêmement délicat. On peut être amené à en sortir demain. Il n'y a pas de pérennité là-dessus. Et comme les gens nous accueillent dans des usines qui ne sont pas les nôtres pour des volumes très faibles, ils nous font payer des prix qui ont tendance à être plus élevés que ce que nous on arriverait à faire avec une seule usine, puisque nous on était capable de tout produire dans une seule usine. Donc on est pressé d'en sortir.
Et malgré ce modèle de transition, la société Lefroy enregistre en effet des pertes. La baisse des ventes est comprise entre 25 et 67% selon les produits et jusqu'à 100% pour le Oro, par exemple, qui n'est plus fabriqué. Pour retrouver un modèle pérenne, la société Lefroy doit se doter d'une nouvelle usine. Et ce matin, ses dirigeants ont regroupé leurs partenaires sur son site historique de Montravel pour annoncer son nouveau projet industriel.
Ça fait déjà des mois qu'on a la tête dans les planches à dessin. Mais à un moment donné, il faut sortir de son bureau et puis expliquer aux gens ce qu'on fait. C'est un projet d'une ampleur importante et c'est aussi un projet sur lequel on a besoin d'un soutien continu. La reconstruction d'une activité industrielle, c'est pas 6 mois, c'est plutôt 3 ans. Et donc on a besoin de ce soutien pendant les années de la reconstruction. On pense terminer les études sur 2026, obtenir les autorisations nécessaires en 2027, la première pierre en 2028. Et comme c'est un chantier qui doit prendre entre 18 et 24 mois, peut-être plutôt 24 mois, on serait plutôt pour une ouverture en 2030.
La nouvelle usine sera construite à Païta sur un terrain qui appartient déjà à la société et qui se prête à ce type d'investissement, explique Christophe Bada.
Les assureurs ont chiffré le montant total des destructions à environ 11 milliards. La reconstruction à 9, à l'identique du site, c'était plutôt 14 milliards. On sait très bien que ce chiffre il est trop élevé. On a énormément de difficultés, mais il faut aussi mentionner le fait qu'il y a moins de consommateurs en Calédonie aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans. Et donc, si ça ne change pas dramatiquement le dimensionnement industriel, eh bien, ça change le business plan et là, ça change la plausibilité du projet. Donc, il nous faut être extrêmement économe dans notre budget.
L'usine devrait donc de nouveau produire des boissons commercialisées par la société Lefroy en 2030. Une centaine de personnes devraient y travailler.
Et j'ajoute que nous reviendrons sur ce projet de nouveau site industriel pour la société Lefroy demain à 7h30. Christophe Badac, vous avez entendu, elle sera en effet notre invitée du matin sur Radio Rythme Bleu. L'actualité judiciaire, comment en est-on arrivé là? C'est ce que vont essayer de déterminer les jurés lors de la première affaire de la nouvelle session d'assises qui s'est ouverte aujourd'hui à Nouméa. Un homme est jugé pour le meurtre de son oncle à Pointe-Boute dans la tribu de Paouta. C'était le 27 avril 2022. Compte rendu d'audience, Léana Colombo.
La veille du drame, tout débutait pourtant comme une journée ordinaire pour l'accusé. Il se réveille à 5h du matin, part travailler, puis avant de rentrer chez lui, s'arrête au supermarché de Conné pour acheter des bières. C'est à ce moment-là qu'il croise son oncle en fauteuil roulant depuis plusieurs années, avec qui il a une altercation verbale. L'accusé rentre chez lui, se saoule et s'endort. Le lendemain, il décide d'en finir. Il saisit alors sa carabine et se dirige vers la maison de son oncle vers 5h30 du matin. Il le voit sous la véranda et tire en direction du thorax. Le tir touche presque le cœur de la victime qui décède des suites de cette blessure avant l'arrivée des secours à 7h30. L'accusé se rend chez son beau-frère, lui demande alors d'appeler la gendarmerie et est interpellé sans résistance. La question est donc pourquoi avoir décidé un matin de tuer son oncle alors que l'accusé est décrit comme un homme sans trouble psychologique particulier mais avec un penchant pour l'alcool. La sœur de l'accusé, interrogée comme témoin de personnalité, évoque de son côté un conflit familial et coutumier entre la victime et son frère qui est donc le père de l'accusé. L'héritage d'une maison qui devait revenir à l'accusé et où la victime habitait était en effet source de frustration. Toujours selon la sœur, l'oncle souhaitait du mal à leur père au point de le faire partir de la demeure familiale pour le protéger. Lors de ses précédentes auditions, l'accusé a reconnu avoir voulu tirer pour faire mal, mais pas pour tuer. De nombreux témoins seront entendus dans ce procès qui doit durer jusqu'à demain. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Un compte rendu d'audience signé Léana Colombo. Il est 17h53. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons à Boulou-Paris, où a été inaugurée ce matin une nouvelle base nautique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Lionel Sabot.
Et direction donc Boulou-Paris, où la nouvelle base nautique de Bourraquet a enfin ouvert ses portes. La première pierre avait été posée en avril dernier. 7 mois plus tard, le site est aujourd'hui présenté comme un équipement structurant pour renforcer le dynamisme du littoral de Boulou-Paris. Charlotte Coulson.
Un hangar, des racks pouvant accueillir au moins une dizaine de varas, et puis des bureaux sublimés par une fresque représentant une baleine et son baleineau, le tout situé juste à côté de l'eau au niveau de la baie de Saint-Vincent. Si l'on compare au 23 avril dernier, le jour où la première pierre de l'édifice a été posée, le site est totalement méconnaissable. À l'époque déjà, le maire de la commune, Pascal Vittori, voulait faire de cette base nautique en devenir un élément phare pour dynamiser le littoral. Aujourd'hui, alors que la base a été inaugurée, le résultat est plus qu'encourageant, selon Pascal Vittori.
L'accueil, le dynamisme touristique, puisque Ténia Vaha Club va gérer à la fois la base nautique, mais aussi le camping de Bourraquet. Boulou-Paris n'était pas connu jusque-là pour être une ville touristique. Et puis finalement, on a beaucoup d'atouts pour ça, et notamment un littoral magnifique. On a cette baie de Saint-Vincent avec 34 îlots, ce qui est unique en Nouvelle-Calédonie. On a 3800 hectares de mangroves, c'est la plus grande mangrove de la province sud. Et donc on a beaucoup d'atouts pour attirer à la fois les Boulou-Parisiens et les Calédoniens d'une manière générale.
Un lieu pour attirer les touristes de Calédonie ou d'ailleurs, certes, mais cette base nautique sera avant tout un endroit qui permettra aux Calédoniens de pratiquer des sports nautiques. Il s'agit d'ailleurs de la seule base située entre Nouméa et Koumak et elle serait exploitée par le Teniavaa Club. Son président Steve Lepechou espère bien s'en servir pour former de futurs champions calédoniens.
Pourquoi Bouraké ? Parce qu'en fait, on a la propriété familiale qui est juste là à côté. Donc on avait fait à la maison là, le petit club. Puis ben, la mairie, elle, entre-temps, elle nous a proposé... Enfin, c'était dans les projets du maire. Donc du coup, voilà, là, c'est plus un projet, c'est en live maintenant, c'est en vrai. Donc là, tu pourras mettre 4 V6 sur des racks. On pourra mettre 6 V3, 18 V1. On a aussi le garage pour pouvoir stocker du matériel à l'intérieur des garages. On pourra mettre jusqu'à 2 bateaux. C'est l'objectif depuis toujours, hein, depuis qu'on fait le VA, c'est de pouvoir former des champions dans quel que soit l'âge. Mais avant de les former, il faut les trouver. Donc on va tout faire pour les attirer et travailler avec eux pour qu'ils puissent arriver à leur plus haut niveau. Donc voilà, on a ce qu'il faut pour pouvoir faire encore mieux, quoi.
Un projet avec de grandes ambitions qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'investissement de la commune, bien sûr, à hauteur de 30 millions de francs, mais surtout sans le soutien financier de la province sud qui a fourni 16 millions de francs. Et puis le plus gros contributeur, l'État, qui subventionne le projet à hauteur de 37 millions de francs. Il était représenté ce matin lors de l'inauguration par la commissaire déléguée à la province sud, Catherine Merckx.
Alors effectivement, l'État a participé à hauteur de 41% du projet. C'était important pour nous parce que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il s'inscrit dans un passé, un présent et un futur. C'est-à-dire qu'il y avait eu des premiers équipements pour aménager la base nautique de Bouraké et ces équipements aujourd'hui vont dans cette continuité. Donc il est logique que l'État continue d'accompagner. Et de la même façon, il y a encore des projets en cours et s'ils émergent, et bien effectivement, l'État ne manquera pas d'accompagner la suite aussi.
Et la commune souhaite poursuivre ce développement. D'autres projets doivent être mis en œuvre, tels que l'extension du marché ou bien la rénovation du wharf de Tomo.
Plusieurs collectifs indépendantistes avaient choisi ce 18 novembre pour organiser une manifestation en faveur des acteurs et commanditaires présumés des violences insurrectionnelles qui sont actuellement en métropole. Entre 150 et 200 personnes ont répondu à l'appel de l'association Urgence Kanaki, du collectif Famille Endeuillée et du collectif Justice 13 Mêlée au Fichou.
Oui, le rendez-vous avait été donné sur la place du Mouaka où plusieurs prises de parole ont rappelé l'historique du mouvement et la symbolique du 18 novembre. Les manifestants ont ensuite pris la direction du palais de justice où ils ont été rejoints par des sympathisants venus soutenir leur démarche. Ils souhaitaient faire le point sur l'état d'avancement des enquêtes concernant les événements de mai 2024, mais aussi sur le retour des militants qui sont toujours en métropole. Une délégation de 8 personnes a été reçue pendant près de deux heures par le procureur général Camille Miansoni et par le procureur de la République Yves Dupas. Victor Boulango, membre fondateur de la CCAT, a dressé le bilan de cette entrevue qui a donc duré près de 2 heures.
On n'a pas obtenu vraiment satisfaction de ce qu'on voulait, mais bon, ils nous ont donné leur explication procédurale. Hein. C'est des dossiers qui sont en instruction, tenus secrets, donc si des informations plus précises doivent être données, c'est à la charge des familles concernées. Mais il y a une chose que l'on retient dans cet échange-là, c'est que M. Dupas a très bien dit qu'il est prêt à recevoir les familles. Et ça, c'est quelque chose quand même d'important.
Les différents collectifs réclament également la libération et donc le retour sur le territoire des acteurs et commanditaires présumés des émeutes de mai 2024.
Inatne Kanaki adresse le bilan de la session extraordinaire de l'Assemblée du peuple kanaké qui était réunie ce samedi. Il réaffirme son opposition à l'accord de Bougival et déclare que seule la coutume et la souveraineté des royaumes kanaks vont permettre l'accès à la pleine souveraineté. Pour Hippolyte Sinewami, il faut maintenant agir au niveau international.
Avec l'évolution de l'alliance des royaumes kanaks, Inatne Kanaki, on est arrivé cette année, le 24 septembre 2025, où on a mis en place le CNTK, le Conseil national de transition kanak. C'est un organe qui est international, où on va pouvoir envoyer des courriers, tout ça à l'international, mais aussi pour avoir une assise juridique aussi. Parce qu'aujourd'hui, on se base sur la partie juridique, le droit des peuples autochtones, et puis sur l'affirmation aussi de la déclaration de souveraineté de Gourishaba l'année dernière, en 2024. Et puis ensuite, c'est de restructurer les chefferies en remettant en place leur organisation.
Hippolyte Sinewami affirme que le peuple kanak est accueillant et qu'il faut avancer ensemble en se consacrant à l'essentiel, c'est-à-dire au bien-être des populations.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 94% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à la consultation citoyenne anticipée sur l'accord de Bougival qui a été annoncé par la ministre des Outre-mer au terme de sa visite en Calédonie. Ils ne sont que 6% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Voici notre question du jour. La décision du Palika de quitter le FLNKS va-t-elle, selon vous, affaiblir le camp indépendantiste? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 18h sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie. Nous irons faire également un tour dans la région Pacifique avant de parler football et météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Les épreuves de philosophie pour les élèves du baccalauréat général et technologique auront lieu demain matin. L'examen se tiendra entre 7h30 et 11h dans les établissements qui organisent le baccalauréat. Notez que pour les candidats au CAP, les épreuves orales commenceront à 8h pour l'histoire-géographie, puis se poursuivront à partir de 10h avec le français. Dans l'actualité ce soir également, le lancement du nouveau volet du programme France 2030, qui est un partenariat entre le Haut-Commissariat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la Caisse des dépôts, un dispositif France 2023 sur lequel revient Arnaud Lozier, le secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat.
France 2030, en fait, c'est un programme national qui prévoit le déploiement de 54 milliards d'euros sur 5 ans sur l'ensemble du territoire pour répondre à trois axes principaux: mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre le monde. Donc, il s'agit de financer des actions, des programmes qui répondent à ces thématiques, avec un volet innovation qui est très marqué. Il y a un volet national et puis un volet territorialisé qui, pour la Nouvelle-Calédonie, est doté d'une enveloppe de près de 2 millions d'euros, avec trois axes: un axe innovation, un axe développement de filière et puis un axe formation professionnelle.
Et hier, c'est le volet projet de formation professionnelle qui a été lancé, volet qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie territoriale de l'innovation de la Nouvelle-Calédonie. On retrouve Arnaud Lozier.
De financer les projets pour former professionnellement au métier de demain, dans un souci à la fois de diversification économique, mais également de réponse aux enjeux de l'avenir. Il y a les organismes de formation professionnelle, et ça peut être l'université, mais ça peut être aussi des entreprises qui décident de monter un projet, une transformation de leurs ressources humaines, et qui pourraient faire un partenariat, par exemple, avec un organisme de formation, privé lui aussi, pour répondre à leurs besoins RH. Ça s'adresse à la fois aux organismes de formation professionnelle qui peuvent être publics, mais également aux entreprises privées.
Et j'ajoute que pour ce volet formation professionnelle, c'est une enveloppe de 45 millions de francs qui est prévue, enveloppe alimentée à part égale par l'État et le gouvernement. Apprendre l'entreprise et le monde de l'entrepreneuriat aux plus jeunes, c'est le sujet était au cœur du magazine Citoyen autour de deux initiatives: le parcours entrepreneur mis en place à titre expérimental au lycée Jules Garnier et l'événement Les Petits Entrepreneurs organisé chaque année par la CCI. Jean-François Bodin.
Susciter l'intérêt pour l'entreprise et donner envie aux jeunes de monter leur propre activité ne doit pas attendre le nombre des années, et plusieurs initiatives rencontrent du succès. C'est donc le cas du parcours entrepreneur au lycée Jules Garnier qui permet aux élèves de seconde de développer un projet jusqu'en terminale. Josiane Dessert est l'un des professeurs qui accompagne ce projet.
Les jeunes qui passent à travers ce parcours, en fait, on les sent complètement métamorphosés. Au départ, c'est des élèves qui ne sont pas toujours engagés, hein, qui viennent à l'école parce qu'en fait, ça fait partie de leur vie d'élève. Mais là, on sent des élèves qui s'engagent, qui viennent en plus du temps scolaire, hein, et qui viennent aussi préparer des diaporamas, préparer la visite ou la rencontre avec des mentorats de manière complètement autonome. En fait, au départ, c'est vrai qu'on a tendance à travailler un peu de manière classique, avec une transmission de savoir. Et là, partir en projet, en fait, ça nécessite de mobiliser des compétences différentes et puis ça va développer aussi des compétences transversales chez les élèves qui sont vraiment essentielles et aussi mettre en avant des qualités que les élèves ne sollicitent pas, ne mobilisent pas pendant la scolarité traditionnelle.
Pour faire connaître ce projet, une caravane de l'entrepreneuriat a parcouru ces 15 derniers jours tout le territoire. Le parcours entrepreneur est accompagné par des partenaires comme la DIE ou Initiative NC. Le directeur d'Initiative NC, Laurent Bu, a suivi une partie du parcours de la caravane.
Les deux étapes sur lesquelles j'ai participé, donc Touho et Koumak, j'étais impressionné par rentrer les jeunes de Jules Garnier déjà, notamment sur leur prise de parole. On voyait effectivement qu'ils avaient bien mûri leur projet, qu'ils avaient pris une certaine confiance en eux. Quand ils intervenaient dans des classes qui avaient à peu près le même niveau qu'eux, seconde, première, terminale, on voyait qu'ils avaient une vraie connaissance de leur projet, comment on y va, comment on structure le projet. Pour moi, en tout cas, c'était une révélation pour le parcours entrepreneur, en tout cas, que ça pouvait apporter aux jeunes. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à apporter sur l'ensemble du territoire et qu'ils aient pu avoir cette opportunité de présenter leur projet auprès d'autres élèves. Ça a éveillé effectivement certaines vocations.
Madeleine est élève de seconde. Elle a participé à l'étape que la caravane de l'entrepreneuriat a effectuée à Canala. Elle a présenté son projet aux jeunes de son âge, mais elle leur a aussi fait passer quelques messages.
C'était surtout pour leur faire montrer qu'ils peuvent entreprendre eux-mêmes, créer leur propre entreprise, mais à partir de petites choses. Le fait que j'ai expliqué à eux mon projet, j'étais fière de leur faire montrer que moi, j'ai pu avoir cette chance en allant au lycée Jules Garnier. Eux-mêmes, ils étaient curieux de voir c'était quoi entreprendre, quoi. Mmh. Et du coup, on les a montrés à partir de petits jeux qu'on avait fait.
Autre initiative pour donner aux jeunes le goût de l'entreprise, c'est l'opération Les Petits Entrepreneurs, lancée par la CCI en 2020, dont la prochaine édition aura lieu samedi. Une opération qui rencontre du succès et qui est pour les jeunes une porte ouverte sur l'avenir, a expliqué Pierre Massenet, directeur de la CIPAC et élu à la CCI.
L'objet, c'est de semer la graine très tôt. On est souvent impressionné, quand on n'est pas au contact de ça, de la manière dont on peut susciter l'intérêt chez les jeunes et l'engagement, et on peut sortir des idées, pas farfelues, des idées assez concrètes d'ailleurs, de la part de jeunes entrepreneurs. Donc l'idée, c'est de faire vivre l'expérience de l'entrepreneuriat, de faire faire l'expérience à des jeunes et de leur faire se poser des questions. Qu'est-ce que je veux vendre? Comment je le produis? À quel prix je le vends? Comment je vais me différencier à côté de l'autre qui est à côté de moi et qui vend la même chose? Tout ça, c'est faire l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est se poser des questions qu'on ne se serait pas posé par ailleurs.
Ça veut dire que le monde de l'entreprise, ça s'apprend quand même.
Ça s'apprend, ça se vit, ça s'expérimente, puis ça, oui, on l'apprend un petit peu à l'école, mais le vivre, c'est différent. Ça développe aussi la créativité, la confiance en soi, l'autonomie, c'est une expérience pédagogique en fait.
Une émission à laquelle participait également Julie Micheli, professeure et chargée des relations avec le monde de l'entreprise au vice-rectorat, qui porte elle aussi le parcours entrepreneur, et Ségolène Thomas, la directrice de l'ADI, une émission qui est à retrouver sur notre site rrb.nc.
Et quelques mots de l'actualité dans la région Pacifique, dans le discours qu'elle a prononcé à la tribune de l'Institut des Affaires Internationales de Canberra, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a expliqué que son pays n'a d'autre choix que de collaborer étroitement avec la Chine pour préserver son économie. Correspondance, Jean-Pierre Zajac.
Défendant avec vigueur la diplomatie de son pays à l'égard de la Chine, Penny Wong a condamné l'idée fallacieuse selon laquelle l'Australie va devoir choisir entre protéger sa souveraineté et maintenir des relations économiques productives avec Pékin. La Chine est notre principal partenaire commercial et la deuxième économie mondiale, a-t-elle rappelé, avant de préciser que le gouvernement albanais a stabilisé ses relations avec Pékin sans compromettre ses intérêts. Nous accordons la priorité au dialogue à tous les niveaux, y compris entre les forces armées des deux pays, a-t-elle insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Venons-en à l'actualité sportive avec du futsal. La SPTT dispute en ce moment son troisième match de la phase de groupe de la Ligue des Champions d'Océanie, Léo Fichou.
Oui, les Calédoniens affrontent les locaux du Suva Futsal Club. Après 5 minutes de jeu, le score est toujours de 0-0. Je rappelle que la rencontre est à suivre en direct en ce moment même, donc sur le site internet FIFA+. Et comme vous le disiez, c'est déjà le troisième match en 3 jours pour les joueurs de la SPTT. Ils avaient remporté le premier, c'était dimanche, 6-1 contre les Salomonais du Matax FC. Et puis avait fait match nul 2-2, c'était hier, contre les Vanuatais du Southern Legion FC. Il restera 2 autres rencontres. Les 6 équipes du groupe s'affrontent. Les 2 meilleurs sont qualifiés pour la finale qui aura lieu en fin de semaine. 0-0, 5 minutes de jeu entre la SPTT et Suva Football Club.
Sur le territoire, cette question: qui succédera à Gilles Tavergeux à la présidence de la Fédération Calédonienne de Football? Nos confrères de FootNC ont dévoilé ce mardi les noms des 4 candidats: l'ancien président Steve Laigle, les vice-présidents actuels Noam Théin et Marcel Ounet, et enfin le président sortant Gilles Tavergeux. Une liste définitive des candidats sera établie samedi, soit 15 jours avant les élections prévues le 6 décembre prochain. Le rendez-vous incontournable du paddle en Nouvelle-Calédonie est de retour. La Casino Paddle Cup prendra ses quartiers dès lundi au tennis club du Mont-Coffin, Léo.
Oui, J-6, donc avant ce tournoi qui s'annonce spectaculaire puisqu'il rassemblera 56 joueurs et joueuses dont certains sont professionnels. Des Espagnols, des Australiens, des Tahitiens, les numéros 7 et 18 français, mais aussi les meilleures paires calédoniennes. Lionel Trille est le directeur de la Casino Padel Cup.
C'est un plateau exceptionnel parce que j'ai fait venir la numéro 1 paire tahitienne, les numéros 1 australiens. Il va avoir les anciens gagnants Etor et Adri Mercadal qui étaient anciens 70e mondial. Chez les filles, il y a aussi un beau plateau. Il y aura une paire australienne, une paire française, une serbe qui sera associée avec une française. Et il y a une tahitienne qu'on va, c'est la surprise, je l'annonce, qui va être avec une calédonienne. On a fait des surprises, il y aura un village. Donc voilà, j'invite vraiment à venir voir, même ceux qui n'ont jamais vu du paddle, voir ce que c'est le haut niveau. À la fois aussi à encourager les équipes calédoniennes, ce qui va être sympa. Et c'est pour aussi élever notre niveau grâce à ce tournoi qui est là chaque année.
La présentation officielle des équipes et le tirage au sort des tableaux auront lieu ce samedi 19h45 au Tennis Club du Mont-Coffin. Les matchs se joueront dès lundi 17h30, 22h et jusqu'à samedi pour les grandes finales.
Merci Léo, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Pierre.
Cette nuit, les éclaircies s'élargiront progressivement, offrant un temps plus calme sur la majeure partie du territoire. Il restera toutefois plus nuageux en première partie de nuit sur le nord, où de bonnes averses pourront encore se produire. Ailleurs, les pluies seront faibles et rares. Le vent d'est à nord-est restera faible, souvent voisin de 5 nœuds. La nuit sera encore chaude, avec des températures comprises entre 21 et 24 degrés et localement 19 à 20 degrés sur les Loyautés. Demain matin, le soleil dominera l'ensemble du territoire, à l'exception de la pointe nord où le ciel restera nuageux avec quelques averses. En cours de matinée, des nuages se développeront et pourront donner de petites ondées sur le nord-ouest, la côte est et les îles. Sur la côte ouest, le vent sera d'abord faible avant que des brises de sud de 5 à 10 nœuds ne se lèvent. Sur le reste du territoire, le vent d'est à nord-est soufflera autour de 5 à 10 nœuds. Et côté marée, pour nos amis les pêcheurs, la mer sera basse demain matin vers 1h03 avant de remonter en fin de nuit avec une pleine mer attendue à 7h39, puis de redescendre à nouveau mercredi en début d'après-midi autour de 13h35.
Merci Pierre pour le point météo. C'est la fin de ce journal à 18h14. Merci de nous avoir suivis. L'info continue avec à suivre dans un instant le journal de la rédaction d'Europe 1. Il y a 18h30, Sarah Knafo, députée européen Reconquête, sera l'invitée de Sonia Mabrouk. Passez une excellente soirée sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.